Vous écoutez Radio France Internationale. Il est 18h ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Mercredi 5 février, bonsoir à tous. Vous êtes au rendez-vous de la session soirée de l'info sur RFI. C'est parti pour 3 heures d'actualité. Soyez les bienvenus, voici le programme. Allez, dans 10 minutes, décryptage qui sera ce soir consacré bien à ce qui fait l'actualité ce mercredi. Donald Trump, Véronique Rigolet, veut prendre le contrôle de Gaza et en chasser les Palestiniens.
Oui, une véritable bombe diplomatique qui a semé stupeur et consternation dans le monde entier, du monde arabe aux pays occidentaux. On a assisté à une véritable levée de boucliers. Mais que cherche donc Donald Trump avec cette nouvelle provocation, qui plus est en plein processus de paix, encore fragile à Gaza? On en parle ce soir avec nos invités Jean-Paul Chagnolot, le président de l'IREMO, et Nicolas Falaise, grand reporter au service international de RFI.
À tout à l'heure. Juste après, le débat du jour, qui ce soir se penchera sur les relations tendues, c'est le moins qu'on puisse dire, relations tendues entre la France et l'Algérie. Il y a quelques jours, le président algérien a évoqué une possible séparation qui alors deviendrait irréparable, a-t-il dit. D'où notre question, est-ce un amour impossible entre Paris et Alger? Pourquoi cette crise de plus dans l'histoire entre les deux pays? Comment parvenir à un apaisement de longue durée? Réponse à suivre dans 30 minutes. Dans une heure, le grand journal du soir, Adrien Delgrange aux manettes. 18h30, TU Afrique Soir, la première édition et évidemment un point précis sur la situation dans l'Est de la RDC. 19h10, TU, votre session reportage pendant 50 minutes. Accent d'Europe sera ce soir en Allemagne, où depuis un an, certains réfugiés reçoivent leurs allocations sous forme de cartes de paiement. Enfin, le grand reportage. En Chine, les vignerons ont vraiment du nez, nous dira Cléa Broderst.
RFI.
Voilà pour le programme, mais à 17h02, temps universel, c'est le journal de Gilles Moreau. Bonsoir Gilles.
Bonsoir.
Et à la une, la reprise des combats aujourd'hui, justement dans le sud Kivu, en République démocratique du Congo.
Oui, des combats qui opposent l'armée congolaise et ses alliés au M23 et aux militaires rwandais. Ils se concentrent actuellement autour de la localité de Nyambimbwe, dans le territoire de Calais. Le porte-parole du gouvernement congolais affirme que le M23 a rompu le cessez-le-feu qu'il avait lui-même déclaré avant-hier. À Kinshasa, les grandes églises du pays, catholiques et protestantes, se mobilisent pour trouver une solution à cette crise. Le représentant a annoncé aujourd'hui devant la presse le lancement d'un dialogue national qui inclurait les différents acteurs, y compris les rebelles du M23. Reportage avec les voix des orateurs en arrière-plan d'Alexandra Brange.
Pour les représentants des deux principales églises du pays, il ne peut pas y avoir de solution à ce conflit si les protagonistes ne sont pas inclus dans la recherche d'une solution. Représentants des églises catholiques et protestantes ont annoncé le lancement de consultations avec les forces politiques du pays, y compris l'opposition, la société civile et les rebelles du M23. Même si de nombreux Congolais s'y opposent, souligne le pasteur Eric Tsenga, secrétaire général de l'ECC.
La question du M23, je l'ai dit ici, notre rôle ce n'est pas de dire X est un ange, Y est un démon. Si on ne fait pas ce travail, nous voulons trouver la solution. Donc je ne peux pas comprendre que nous parlions de la paix, mais en même temps, nous soyons sceptiques à tout mécanisme qui peut conduire à la paix.
Le responsable de l'église protestante indique que le projet a été soumis au chef de l'État qui ne s'y est pas opposé. C'est la première fois qu'une autorité congolaise évoque publiquement la possibilité d'un dialogue avec le groupe armé. Jusqu'à présent, le chef de l'État s'y était toujours refusé, évoquant une ligne rouge à ne pas franchir. Alexandra Banjon, Kinshasa, RFI.
Une grève générale a débuté ce matin au Maroc. Elle appelle des principaux syndicats du Royaume. Les revendications sont multiples, pouvoir d'achat, chômage, mais surtout une loi votée il y a deux jours au Parlement marocain qui encadre le droit de grève. On en vient aux déclarations fracassantes de Donald Trump sur la bande de Gaza. Nombreuses réactions depuis hier soir, l'immense majorité pour les dénoncer. Recevant le Premier ministre israélien, le président américain a souhaité que les États-Unis prennent le contrôle du territoire pour en faire une sorte de Côte d'Azur. Il a aussi redit que les habitants de Gaza pouvaient aller vivre en Jordanie ou en Égypte, malgré l'opposition de ces pays et des Palestiniens eux-mêmes. Cette sortie choc a été vivement condamnée dans le monde arabo-musulman, également à Paris. Déclaration dangereuse pour la stabilité, pour le processus de paix, a réagi ce matin la porte-parole du gouvernement français. On s'arrête maintenant sur la position de la Chine. La Chine qui a toujours plaidé en faveur de l'autonomie palestinienne. Ce matin, Lin Jian, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a réitéré cette ligne. La Chine s'opposera au transfert forcé des habitants de Gaza. On l'écoute.
La Chine a toujours pensé que les Palestiniens doivent se gouverner eux-mêmes et que cela est le principe fondamental de la gouvernance d'après-guerre de Gaza. Nous nous opposons à la relocalisation forcée de la population de Gaza et espérons que toutes les parties concernées saisiront l'occasion du cessez-le-feu à Gaza et de la gouvernance d'après-guerre pour remettre la question palestinienne sur la bonne voie, celle d'une résolution politique fondée sur la solution à deux États, afin de parvenir à une paix durable au Moyen-Orient.
Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, propos recueillis par Cléa Broderst. Donald Trump entend déplacer les Gazaouis en Égypte ou en Jordanie. L'idée n'est pas nouvelle. Il y a un an, son gendre et ancien conseiller, Jared Kushner, avait fait une proposition du même type. Hors de question de partir, répondent les Gazaouis, interrogés aujourd'hui par Rami El-Megari. Son reportage à Gazaville avec Sami Boukhelifa à Jérusalem.
Le plan de Trump est voué à l'échec, tranche Hajj Mohamed. La famine ne nous a pas fait quitter Gaza. Ce n'est pas Trump qui nous fera partir, c'est notre pays, poursuit le vieil homme. Une position qui fait l'unanimité chez les Gazaouis, explique le jeune Mohamed. Mon message pour Trump et pour tous ceux qui convoitent Gaza, c'est notre terre. On vit ici et on meurt ici. Malgré toutes les bombes qui se sont abattues sur nous et toutes les destructions, nous avons choisi de rester ici. Le plan du président américain prévoit le transfert des Gazaouis vers la Jordanie ou l'Égypte voisine. Aza est palestino-égyptienne. Elle vit à Gaza depuis son enfance. Donald Trump peut garder ses idées brillantes pour lui, ironise la jeune femme. Mon père est égyptien et ma mère palestinienne. Mais je suis très attachée à la Palestine. Je ne partirai jamais. J'aime Gaza. Et contrairement aux autres Gazaouis, moi, je pourrais m'installer en Égypte par choix. Mais je refuse qu'on subisse un déplacement forcé. Plus de 2 millions de Palestiniens vivent dans la bande de Gaza. Les chassés de force constitueraient un nettoyage ethnique et donc un crime de guerre. Rami El-Merali, Gaza, Sami Bourkifa, Jérusalem, RFI.
Des déclarations vides de sens, c'est ainsi que le Kremlin a réagi aux déclarations de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien s'est dit prêt à des négociations directes avec son homologue russe et avec d'autres dirigeants pour mettre fin au conflit. Interrogé sur la possibilité de négocier avec Vladimir Poutine, Zelensky a répondu qu'il le ferait si c'est le seul moyen d'apporter la paix aux Ukrainiens et de sauver des vies. En France, l'examen des deux motions de censure déposées par la France Insoumise sur les textes budgétaires du gouvernement Bayrou. Cet examen est en cours à l'Assemblée nationale. Elles n'ont pratiquement aucune chance d'être adoptées, faute du soutien du Parti Socialiste et du Rassemblement National. À la page économique, les résultats 2024 de Total Énergie, ex-Total. L'an dernier, le géant français du pétrole a vu son bénéfice net chuter, moins 26% par rapport à 2023. Mais 2023 et 2022 avaient été marqués par des super profits avec l'envolée des prix liés à la guerre en Ukraine. 15,8 milliards de dollars de profits l'an dernier, c'est tout de même le troisième meilleur résultat de l'histoire de Total Énergie. Si les dividendes versés aux actionnaires vont augmenter, les investissements prévus dans les énergies renouvelables vont au contraire être revus à la baisse. Pauline Glaise.
Total Energy va réduire de 500 millions de dollars l'enveloppe prévue pour les énergies dites bas carbone. Une enveloppe qui passe de 5 milliards à 4 milliards et demi de dollars. Le bas carbone devrait tout de même représenter un quart des investissements de l'entreprise qui a bâti sa richesse sur le pétrole et le gaz. Des hydrocarbures qui comptent, rappelons-le, parmi les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre. Total Energy, dont la production d'électricité issue d'énergies renouvelables a par ailleurs augmenté l'an dernier, n'est pas la seule compagnie européenne à mettre le frein sur ses investissements. Le géant norvégien Equinor a revu aujourd'hui ses ambitions à la baisse. Comme beaucoup de ses pairs, Equinor rechigne à sacrifier ses activités juteuses dans les hydrocarbures au profit d'énergies moins rentables, notamment l'éolien en mer. Et la douloureuse expérience du Danois Ørsted n'aidera pas à convaincre les majors du contraire. Ørsted, qui a renoncé aux énergies fossiles pour se concentrer sur les renouvelables, a dû procéder à des dépréciations massives en janvier, et ce en raison de coûts élevés. Mais le phénomène est plus ancien. Avant Total Energy et Equinor, les compagnies européennes Shell et BP ont déjà sabré dans leurs investissements pour la transition énergétique.
Enfin, la tendance est à la baisse sur les bourses mondiales. Prudence des investisseurs en raison des tensions entre les États-Unis et leurs partenaires commerciaux. Et puis au Japon, c'est le secteur automobile qui inquiète. Le projet de mariage Nissan-Honda pourrait ne pas aboutir. Très bonne journée sur RFI. L'information continue avec Décryptage.